Europe 1. h 19h sur CNews et Europe 1.
Punchline, Laurence Ferrari.
Voter aujourd'hui au Parlement européen va changer quoi que ce soit à l'arrivée de migrants sur nos côtes, et cela au péril de leur vie et pour le plus grand bénéfice des infâmes filières de passeurs qui prospèrent sur leur misère absolue. Qui peut croire que les procédures de filtrage aux frontières prévues dans ce texte vont être opérantes demain, alors que nous sommes incapables aujourd'hui, et cela depuis des années, de contrôler ne serait-ce que nos propres frontières françaises? Qui va procéder à ces contrôles? Qui va construire les fameux centres de rétention prévus le temps d'examiner les demandes d'asile? Qui peut croire surtout que les mouvements irrépressibles de migration des pays les plus pauvres en direction des pays les plus riches et les plus généreux vont s'arrêter d'un coup de baguette magique, tant le message envoyé par l'Union européenne est ambigu? Fermeté brandie d'une main, mais de l'autre, accueil et répartition des migrants dans tous nos pays grâce à un mécanisme de solidarité avec des amendes à la clé pour les pays récalcitrants. Lampedusa, dans 2 ans, c'est fini. Grâce à ce texte, disait sur nos antennes Valérie Ayer, tête de liste macroniste aux élections européennes. Nous serons alors en 2026. En 2019, Emmanuel Macron promettait d'exécuter 100% des OQTF. Nous en sommes à peine à 7%. Les promesses n'engagent que ceux qui les croient. On va en débattre ce soir dans Punchline.
18h-19h sur CNews et Europe 1.
Punchline, Laurence Ferrari.
Il est 18h sur CNews et sur Europe 1. D'abord, le rappel des titres de l'actualité. Un adolescent de 15 ans a été tué à coups de couteau à Romans-sur-Isère. Les faits se sont produits hier soir, peu après 22h. Dans le quartier sensible de la Monnaie, la victime aurait cherché à s'interposer lors d'une altercation entre bandes de jeunes. Une personne en lien avec les suspects a été interpellée. Les autres sont toujours recherchés. Le projet de loi sur la fin de vie a été présenté en Conseil des ministres, un texte de l'exécutif qui est loin de faire l'unanimité. Il s'agit d'une réponse a priori éthique aux besoins d'accompagnement des malades, a affirmé la ministre de la Santé Catherine Vautrin, qui pourtant était opposée à cette idée il y a ne serait-ce quelques années. Et puis 187e jour de détention pour les otages retenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. 3 de ces otages sont français, ils se nomment Ofer, Orion, Oad. Nous pensons à tous ces otages ce soir et à leurs familles. Nous demandons une fois de plus leur libération immédiate et sans condition. Il est 18h01 et quelques secondes. Nous sommes sur Europe 1 et sur CNews avec Yoann Uzay, journaliste politique à CNews. Bonsoir à vous. Avec André Vallini, ancien ministre. Merci de votre présence. Rudy Mana, qui est policier, porte-parole de l'Alliance Sud. Sabrina Medjeber, essayiste. Et on a le plaisir de recevoir François-Olivier Gisbert, journaliste et écrivain. Bonsoir. François-Olivier. On va évidemment parler dans un instant de ce pacte asile et immigration qui a été voté par le Parlement européen. Que va-t-il changer? C'est la question que je posais dans mon éditorial. Nous verrons évidemment cela au fil des mois. Mais d'abord, cette menace sur le Parc des Princes. Il y a un match important de Ligue des Champions qui se déroule ce soir à 21h, PSG-Barcelone. Et l'État islamique, en tout cas la branche irano-afghane de l'État islamique, a proféré un certain nombre de menaces sur cette rencontre, sur d'autres rencontres également. Du coup, il y a un renforcement des mesures de sécurité. Le point avec Michael Dos Santos.
Les menaces de l'État islamique, qui ciblent notamment le Parc des Princes, sont prises très au sérieux par Gérald Darmanin. Une réunion avait lieu hier soir place Beauvau avant la rencontre de ce mercredi Paris Saint-Germain FC Barcelone. Quelques heures plus tôt, le ministre de l'Intérieur avait déjà annoncé un dispositif de sécurité renforcé.
Le préfet de police a renforcé considérablement les moyens de sécurité et la DGSI est particulièrement à pied d'œuvre, sans rentrer dans le détail, pour évidemment être au rendez-vous.
Derrière cette menace, des terroristes afghans soupçonnés d'être derrière l'attentat de Moscou qui a fait 144 morts en mars dernier. Pas de quoi décourager des supporters venus assister à la rencontre.
Je ne suis pas sûr qu'il faille s'arrêter à ça, parce que c'est aussi leur but de nous faire peur.
En conférence de presse, même l'entraîneur parisien n'a pas caché son inquiétude.
J'espère qu'on pourra tout contrôler, que ce soit juste des menaces et que ça ne se termine pas en quelque chose de désastreux. Mais bien sûr que c'est inquiétant.
Pour les 2 premiers quarts de finale, Londres et Madrid avaient également renforcé hier soir leur dispositif de sécurité. Aucun incident n'a été recensé.
Sur place, on rejoint Régine Delfour et Laurent Salarié devant le Parc des Princes. Gros dispositif policier ce soir, Régine.
Absolument, Laurence, un énorme dispositif de sécurité ici au niveau du Parc des Princes. Presque toutes les rues sont bouclées, impossible de passer sans être contrôlé ou fouillé. Il y a 7 compagnies de CRS qui ont été déployées. En temps normal, pour ce genre d'événement, c'est 4. Ces compagnies, elles sont appuyées notamment par une unité de la Brave M, la brigade de répression de l'action violente motorisée, appuyée également par des motards de la police nationale. On a vu des drones entrer dans le parc des Princes. Il y a aussi la BRI qui a été appelée en renfort, donc la brigade de recherche d'intervention, cette unité d'élite de la police. C'est pour vous dire combien cette menace est prise au sérieux par les autorités. Elle est un petit peu moins par les riverains et par les supporters qui, eux, se sentent en sécurité et qui estiment qu'ils vont passer une très bonne soirée ce soir à partir de 21h.
Et c'est ce qu'on souhaite. Merci beaucoup, Régine Delbourg et Laurence Hélarié sur place. Rudy Mana, vous êtes policier. On ne peut pas balayer d'un revers de main cette menace. On voit le dispositif policier conséquent. 1000 policiers mobilisés pour une rencontre sportive. 1000.
Effectivement, Gérald Darmanin ne peut pas balayer cette menace. C'est impossible. C'est le ministre de l'Intérieur. Il est là pour protéger les Français. En l'occurrence, là, il est là pour protéger les supporters qui vont venir au match. Voilà, on a de quoi par contre se poser des vraies questions. 1000 policiers engagés pour un match de foot. 1000 policiers engagés pour un match de foot. Et puis on a plein des chances qui arrivent. Et puis j'en profite aussi pour saluer tous ces CRS. Parce que vous savez, les CRS souvent ils sont blâmés. On dit ouais, les CRS dans les manifestations. Heureusement qu'ils sont là. Heureusement qu'ils sont là, et là encore ce soir, heureusement qu'ils sont là, parce qu'ils assurent la sécurité, ils sont là pour protéger les supporters, tous les gens qui vont venir au stade, qui viennent quand même pour une fête. Hein. Et oui. On met 1000 policiers à des gens qui viennent pour une fête. Bon voilà, on en est là aujourd'hui dans ce pays, malheureusement on n'a pas le choix.
François-Olivier Gisbert, on est à 107 jours des JO, la menace terroriste elle est omniprésente. Est-ce qu'il faut capituler? Est-ce qu'il faut revoir tout notre dispositif à la baisse?
Bien sûr que non, d'ailleurs on a bien vu tout à l'heure, il y a une personne interrogée qui disait, bah oui c'est ce qu'ils veulent justement que tout s'arrête, raison de plus pour continuer. Donc je crois que c'est ce qu'on se dit depuis qu'il y a des attentats en France et d'ailleurs en Occident, et je pense que c'est la seule réponse. Continuer comme avant. Voilà, et puis on est prévenu.
Vivre comme avant, mais en même temps, la menace, elle est là, omniprésente.
On sait, mais attendez, il y a eu, vous vous souvenez bien, quand il y a eu l'Euro, les matchs, c'était pareil, c'était sous surveillance, il s'est rien passé. Bon, parce que c'est vrai que quand il y a de la surveillance, comme il y a avec 1000 policiers, c'est un peu plus compliqué de faire des opérations terroristes.
Et après, c'est aussi le but de donner des menaces à l'avance, c'est de terroriser, de faire planer l'angoisse.
Le terrorisme, c'est la terreur, et le but des terroristes, c'est évidemment de faire le plus de victimes possible, mais c'est aussi que nous adaptions notre mode de vie à leurs menaces. Et c'est précisément ce qu'il faut essayer de faire le moins possible. Rudy Mana disait, il y a 1000 policiers, voilà où on en est dans ce pays. Et là, ça n'est pas que dans ce pays. On en est là dans tous les pays européens, y compris aux États-Unis, etc. Ça n'est pas un problème franco-français. Les terroristes, ils sont partout. Et j'aime beaucoup la manière qu'ont les Israéliens depuis le 7 octobre de dire, nous continuerons de danser. En référence, bien sûr, à ce qui s'est passé à ce festival de musique. Eh bien, je crois qu'ils ont raison de voir les choses de cette manière-là. Il faut continuer à aller voir les matchs dans les stades. Il faut mener cette belle cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques en se protégeant, bien sûr, en déployant le plus de policiers sur le terrain possible. On a des services de renseignement qui sont formidables, qui déjouent un attentat tous les 2 mois dans le pays. Ça fonctionne, nos services de renseignement fonctionnent. Le risque zéro n'existe pas, mais continuons à vivre et à bien vivre.
André Vallini, je sais que vous n'êtes pas d'accord avec ça.
Je suis
d'accord. Il faut continuer à vivre normalement,
Il faut vivre normalement, mais il ne faut pas faire cette cérémonie grandiose,
pour
exceptionnelle.
Pour l'ouverture des JO.
Pour les JO, la cérémonie d'ouverture des JO mobilise des forces de sécurité énormes, 45 000 policiers. En amont, je l'ai dit tout à l'heure, on est en train de visiter tous les appartements un par un, de tous les immeubles un par un, à droite et à gauche de la Seine sur le parcours. Ça demande un travail considérable de fourmi, sans savoir si les gens que le contrôle aujourd'hui seront bien ceux qui seront là au mois de juillet. Donc moi je pense que la cérémonie d'ouverture, on peut encore la faire au Stade de France, ce qui n'empêche pas de continuer à vivre entre guillemets normalement, de faire les Jeux Olympiques et de profiter du match de ce soir. Oui. Mais il faut quand même s'adapter aux circonstances.
Hans, vous n'êtes pas d'accord?
Je te fais d'accord.
Ah bon?
Ah oui,
vous dites qu'on vit normalement?
Ah non, mais attendez. Continuons comme avant, mais c'est pas la peine non plus de faire. Parce que dans cette histoire-là, on voit très bien, il y a toute une histoire d'ego, le président de la République, la maire de Paris, ils veulent se rebecter à l'occasion des JO. Ils croient que ça va être. Voilà, ils vont se sauver. Mais tout ça est absurde. Donc il n'y a pas besoin de tout ce cirque. Il y a effectivement. Il y a besoin que les JO JO existe, oui, qu'il continue, qu'on fasse. Et effectivement, la proposition de René Vallini, moi, je contresigne.
Vous votez pour. Alors, Lourdi Manin.
Oui, je voulais juste dire à Johan par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure, dans les autres pays d'Europe, bon, je suis Marseillais, j'ai fait des matchs de Marseille il y a 10 ans. On n'était pas 1000 policiers autour d'un stade.
Hein. Non, mais
que les choses soient claires. Donc aujourd'hui, on a besoin, et on en est là dans ce pays, on a besoin de mettre 1000 policiers pour assister à un match de foot. Là où il y a 10 ans, on avait 300 policiers pour assister à un match de foot. Et Dieu sait qu'il y avait toujours autant de monde, surtout à Marseille.
Sabrina, sur ces menaces terroristes émanant d'une branche afghane de l'État islamique qui a perpétré un massacre à Moscou il y a quelques semaines.
Tout à fait. Mais moi, je suis de l'ordre de la résilience. Moi, je n'ai pas peur. Et je suis, comme disait Johan, je pense qu'il ne faut surtout pas céder ni à la peur ni à la panique. De toute façon, nous sommes habitués au terrorisme. Nous vivons tous avec une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes chaque jour qui passe depuis l'irruption du terrorisme djihadiste. Le terrorisme, ça n'est pas un monophénomène, c'est une structure exogène, c'est une structure endogène, c'est une structure protéiforme avec des modalités opératoires différentes. Vous pouvez avoir une action coordonnée de plusieurs kamikazes qui décident d'attaquer une salle de concert, un bar, un stade de foot, ou etc. Et vous avez le terroriste qui, avec son coup de couteau, va aller poignarder un jeune amoureux en bas de la Tour Eiffel parce qu'il aurait soi-disant tué des musulmans à Gaza. Donc les mobiles sont différents, les actions sont différentes, les intentions sont différentes, et le terrorisme malgré tout, et c'est ça le drame français et même occidental, c'est que nous vivons avec le terrorisme. Vivons avec le terrorisme et nous devons résister, ne jamais renoncer, jamais, et rester ce que nous sommes et fiers d'être ce que nous sommes.
Petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On parlera de ce qui s'est passé à Romans-sur-Isère, un jeune de 15 ans qui a été tué d'un coup de couteau. Il était en train de s'interposer dans une bagarre entre bandes. Et puis on entendra aussi Gérald Darmanin, parce qu'on parle de terrorisme. Lui, il a dit qu'aujourd'hui c'est le trafic de mort, le trafic de drogue, vous voyez, le trafic de drogue qui fait le plus de morts en France par rapport au terrorisme. A tout de suite dans Punchline.
Punchline, 18h-19h, Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1.
18h15, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec ce nouveau drame à Romans-sur-Isère, un adolescent de 15 ans qui a été tué à l'arme blanche hier soir dans le quartier de la Monnaie, d'où sont originaires les jeunes qui sont mis en cause dans la mort du jeune Thomas à Crépol. On va écouter les explications de Tanguy Hamon parce que visiblement il s'est intercalé dans une bagarre entre jeunes. Et puis après on écoutera la mère de Romans-sur-Isère, Marie-Hélène Toraval. Mais d'abord Tanguy Hamon.
Le procureur de la République de Valence a donné plus de détails sur les circonstances de la mort du jeune mineur de 15 ans retrouvé poignardé dans les rues de Romans-sur-Isère mardi soir. Il a indiqué qu'une altercation entre plusieurs jeunes a eu lieu tout près de là où la jeune victime a été retrouvée. La victime aurait d'ailleurs tenté de s'interposer dans la bagarre et c'est là qu'elle aurait reçu le coup de couteau mortel. Le procureur a par ailleurs expliqué que cette bagarre a fait suite à une autre altercation survenue quelques jours auparavant et que plusieurs membres d'une même famille est venu exprès en voiture dans le quartier de la Monnaie pour se venger d'une personne. Cette personne aurait donc été retrouvée et c'est au cours de cette nouvelle bagarre que le jeune homme de 15 ans est décédé. Les enquêteurs ont d'ores et déjà interpellé un premier individu en lien avec les principaux suspects. Les principaux suspects, eux, sont toujours activement recherchés.
Beaucoup Tanguy Hamon. Marie-Hélène Toraval, la maire de Romans-sur-Isère, dénonce l'inaction globale de l'État face à cette montée de la violence des jeunes, malgré tous les effets d'annonce du gouvernement. Écoutez-la.
Il y a une croissance de la violence, il y a une intensité de cette violence et finalement, on a affaire à des jeunes qui sont complètement en dehors du système. Qu'est-ce que l'on peut mettre en place par rapport à cela? Et puis, à chaque fois qu'il y a un malheur qui arrive, un drame de manière plus générale. Aussitôt, on a des grandes annonces, mais finalement, ça reste qu'au stade de l'annonce. Et je voudrais juste dire une chose, c'est que l'évolution de notre pays, lutter contre la violence, eh bien, ça ne va pas se régler uniquement dans l'hémicycle à grands cris ou à grandes phrases ou à grandes déclarations. Enfin,
Marie-Hélène Toraval, François-Olivier Gisbert. Il y a eu des grandes annonces hier après la mort d'un autre jeune, Shemseddine, en disant on va annoncer des mesures extrêmement fortes, non à la violence des jeunes. Ça ne fera jamais reculer. Mais
c'est affreux, je pense que ces politiques devraient se taire de temps en temps. Notamment, par exemple, sur l'histoire de la drogue, je trouve le cirque qui est fait sur la drogue est honteux. C'est un travail de longue haleine, ça sera fait sur 10 ans, sur 20 ans, il faut commencer maintenant. Et c'est vrai que si les politiques ne sont pas respectées aujourd'hui, vous savez très bien, c'est qu'ils parlent tout le temps à tort et à travers, et dès qu'il y a un fait divers, tout de suite, il y a une loi qui va arriver, et tout ça est absolument, je ne dirais pas c'est grotesque, mais c'est abject, parce que pendant ce temps-là, on a le sentiment d'un pays qui se décompose. Pourquoi ? Eh ben, des événements comme celui d'hier, autrefois, il y en avait un par semaine ou tous les mois. Et on a l'impression que ça s'accélère. C'est ce que c'est l'effet mimétisme, copycat, comme ils disent aux États-Unis. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y en a de plus en plus. Et face à ça, il faut se poser à un moment, et prendre des décisions, peut-être voter de nouvelles lois, mais comment dire, travailler, et pas uniquement, ça ne se règle pas avec de la com. Je pense que ce gouvernement, il faut qu'il comprenne qu'il y a des grands sujets qui ne se règlent pas se régler avec la com. Les problèmes de l'autorité, les problèmes de la dette, les problèmes de l'immigration aussi, tous ces problèmes qui sont, on peut le dire, les angles morts du macronisme. Ce sont des problèmes dont il ne faut pas parler. Il ne faut pas parler d'immigration, il ne faut pas parler d'autorité, il ne faut pas parler de la dette, bien entendu, et enfin, tous ces sujets nous rattrapent, évidemment, à chaque fois, puisqu'ils font la une des journaux. Et alors, on est là, on fait des déclarations.
Et on annonce et on dit, une nouvelle loi.
C'est intolérable. Alors, vous me direz, ça ne date pas de Macron, parce que on en a vu des ministres, notamment défiler à Marseille, en disant, c'est intolérable, plus jamais, etc. Bon, et puis ça continue. Donc, le sujet, c'est travailler et arrêter la com.
Sur ce nouveau drame à Romans-sur-Isère, Rudy Mana, vos collègues, ils sont débordés sur place. Qu'est-ce qui se passe dans cette ville qui est 30 000 habitants, c'est ça, une petite ville moyenne, quoi.
Un petit commissariat, une ville moyenne, un équipage de 4 policiers. Par vacation, c'est-à-dire vous avez une journée, ils ont des vacations de 12 heures, vous avez une journée un équipage de 4, et puis la nuit un équipage de 4.
Ben voilà.
Donc en fait, bien évidemment que quand on voit ce qui se passe, on se dit quand on intervient à 4, s'ils sont 50 en face, on n'est pas des Goldorak, hein. C'est compliqué de les maîtriser. Donc bien évidemment que dans une ville comme ça, vraiment, Gérald Darmanin a fait le job à Marseille notamment, dans plein de grandes villes, mais il manque des effectifs dans ces villes moyennes. Il manque vraiment. Et là, on a besoin d'effectifs pour la fameuse BAC qui n'est pas créée, qui est en sommeil depuis 10 ans. Comme je vous disais tout à l'heure, elle est dans le coma, en fait, 10 ans. Donc, on a besoin d'effectifs, on a besoin d'investigation, parce que vraiment, ces petites villes sont gangrénées par la délinquance. Et de plus en plus.
Et le trafic de drogue?
Et les trafics de drogue, bien sûr.
C'est la même chose, c'est la même
chose. Mais quand on parle de délinquance aujourd'hui, le ministre l'a dit très clairement et très justement tout à l'heure, c'est le trafic de drogue qu'il y a souvent derrière.
Absolument. André Vallini, sur Romans-sur-Isère.
Je suis d'accord avec ce que vient de dire Rudy Mana. Il faut renforcer les effectifs de police dans les villes moyennes.
Oui.
Et dans les petites villes, moi je connais bien des petites villes de 5 000, 6 000, 7 000 habitants qui sont elles aussi aujourd'hui à leur tour touchées par le trafic de drogue. Donc il faut plus de gendarmes dans les petites villes, ce sont des gendarmes, et plus de policiers. Moi je suis sidéré d'apprendre qu'à Romans, il y a 4 policiers la nuit qui tournent dans une ville de 30 000 habitants. Et je suis d'accord avec ce qu'a dit François-Olivier Gisbert tout à l'heure. Moins de communication. Trop de communication tue la communication. Il faut que la parole publique soit plus rare. Ça a commencé avec Sarkozy. Il communiquait à tout va. Ouais. Dès qu'il y avait un fait divers, Sarkozy se rendait sur place.
Et Hollande ?
Ah non, Hollande communiquait moins que Sarkozy. Sur les faits divers, sur les questions pénales et sécuritaires.
Sur l'affaire Leonarda, il me semble avoir beaucoup entendu.
Sur ?
L'affaire Leonarda.
C'était autre chose, Leonarda.
Voilà.
C'est pas ce qu'il a fait de mieux pendant son quinquennat. Mais je parle de la communication sur les faits divers, la délinquance, la criminalité. Sarkozy a donné le là, si j'ose dire, hélas. Et aujourd'hui, on voit qu'on communique beaucoup, 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 de plus en plus.
Mais Sarkozy, pardonnez-moi, c'est rien à côté de ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire, ça n'arrête pas. C'est en permanence. Et je pense que si les Français s'interrogent autant sur la classe politique ou détestent autant les politiques, je crois que c'est ça. C'est-à-dire, les voir arriver de tous les côtés. Je ne parle pas de Gérald Darmanin qui fait le boulot, qui a un des pires métiers, enfin, des pire ministère possible en ce moment, qui est là partout, qui est bien obligé de répondre. Je parle en général des dirigeants, je pense notamment au président de la République, il faut dire les choses, on a l'impression que c'est... Voilà, quand même, l'épisode de Marseille, restera quand même une des hontes de ce quinquennat. Il faut bien dire les choses. On s'est foutu du monde. Enfin, quand on connaît Marseille, les gens se marraient, les gens rigolaient et ils étaient un peu dégoûtés. Un peu dégoûtés parce que pour qui on nous prend ? Ils avaient le sentiment d'avoir été pris pour des imbéciles.
Et ce que dit monsieur François-Olivier Gisbert, pardon, est très très juste par rapport à la symbolique de l'autorité. Je me souviens que le jour où il est allé à Marseille, il s'est fait alpaguer par un citoyen qui lui parlait quasiment presque en mode de tutoiement et qui lui avait dit
calme,
si vous n'êtes pas content,
CRS.
Voilà, exactement.
Calme tes petits CRS.
Et sinon, on va faire exploser les banlieues si vous ne trouvez pas de solution à Gaza. Alors déjà qu'aujourd'hui un citoyen se comporte comme ça face au président de la République, ça en dit long quand même sur la déliquescence de l'autorité. Mais le président lui-même n'a pas répondu justement de manière ferme et autoritaire en lui répliquant et en l'incitant à ne pas parler avec ce langage.
Je me rappelle très bien,
vous savez, Laurent, il n'a pas été très très ferme. Il a fait deux, trois pas.
Il aurait dû lui demander des conseils à François Bayrou. Parce que vous vous souvenez, Bayrou,
et puis le préfet Hugues Moutou également qui avait dit ça. Mais effectivement, il y a ce problème-là d'exemplarité. Et par rapport au relativisme, il était très familier, c'est ça que je voulais dire. Et par rapport justement à l'exemplarité la symbolique du diagnostic, la réalité, la lucidité sur le diagnostic, quand Madame Toraval dit, il faut en finir avec cette culture de l'excuse. Il faut en finir avec ce relativisme. Ça n'est qu'une minorité agissante qui pourrit la vie des quartiers. Elle décrit la situation de façon très claire et objective. Il y a les émeutes qui se déroulent. Que dit le président de la République ? Ces jeunes ne vont pas à la montagne et à la mer. Comment voulez-vous que l'autorité s'incarne à partir du moment où le président de la République dédouane des personnes, des très jeunes personnes qui ont brûlé des commissariats, des municipalités. Vincent Jeanbrun a subi une tentative d'assassinat, des bibliothèques, des supermarchés. Ça, c'est l'oisiveté.
Mais les parents de ces gosses ne peuvent même pas les engueuler le soir puisque le président de la République les a excusés.
Voilà, donc s'il n'y a pas de verticalité dans l'exercice du pouvoir avec un assentiment d'autorité, comment voulez-vous que la population s'adapte à ce qu'elle croit être l'autorité ?
Un mot très rapide sur la communication politique, parce que ça me semble être quelque chose d'important. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de communication. Les politiques, maintenant, une partie d'entre eux, en tout cas, passent leur temps à communiquer. On a l'impression qu'ils communiquent plus qu'ils ne travaillent. Oui. Et pour une raison qui me semble assez évidente, c'est que moins il y a de résultats, plus on est tenté de communiquer. Oui. C'est vrai sur le trafic de drogue, c'est vrai sur la sécurité, c'est vrai sur tout un tas de choses. Regardez la sécurité. Les chiffres du ministère de l'Intérieur sont absolument catastrophiques. Les tentatives d'homicide, les homicides, les vols avec violence, tout ce qui concerne la violence et l'ultra-violence est en augmentation année après année. Et pourtant, il y a de plus en plus de communication parce que le politique veut montrer que malgré des résultats catastrophiques, il a toujours la main, il travaille, il tente de faire des choses. S'il y avait plus de résultats, croyez-moi, il y aurait un peu moins de communication.
Allez, j'aimerais qu'on parle maintenant un tout petit peu de ce qui s'est passé à Strasbourg aujourd'hui. Le vote de ce pacte migration et asile qui est censé trouver une solution pour réguler l'immigration en Europe. Ça concerne évidemment les migrants ayant peu de chances d'obtenir le statut de réfugié. Ça prévoit la mise en place de centres de transit aux frontières extérieures de l'Union, sauf pour les mineurs. Il y a 30 000 places qui seront créées dans des centres de transit. Il y aura un examen accéléré des demandes d'asile. C'est ce qu'on nous promet. Encore une fois, il faudra faciliter ensuite le renvoi vers les pays d'origine de transit. Il y a toute une liste comme ça à l'après-vert de mesures qui vont nous permettre de réguler. La question que je pose, c'est pourquoi est-ce qu'on croirait aujourd'hui ce texte-là, alors que ça fait des années qu'on est incapable de contrôler nos frontières, incapable de renvoyer ceux qui n'ont rien à faire sur le sol français dans leur pays. 7% d'exécution des OQTF quand Emmanuel Macron, François-Olivier Gisbert en promettaient 100% d'exécution en 2019. Pourquoi on croirait ce texte-là.
Personne ne croit.
Voté par les députés, les eurodéputés.
Oui, bien sûr. Ça a été voté. Ça a été voté un peu dans la panique avant des élections européennes qui s'annoncent compliquées. Mais personne ne croit sérieusement que ça va changer quoi que ce soit. Parce que, de toute façon, le problème de l'immigration, qui est un vrai sujet, qu'il faut traiter, comment dire, là aussi, sans communication, en débattant, en essayant de comprendre, bon, et pas en prenant des mesures rapides et absurdes, là, de toute façon, il n'y aura même pas de mesures, vous verrez. C'est aussi, il y a le fond, il y a le fond des choses, c'est aussi que la souveraineté populaire elle a été enlevée. Et c'est pas parce que le Rassemblement National dit ça qu'il faut, faut pas le dire. La réalité, on sait très bien, il suffit de voir les décisions du Conseil d'État en France, les décisions de la Cour de justice européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme font que des États qui prennent des décisions sont souvent contrôlés. Et d'ailleurs, vous verrez, il y a si des comment dire des mesures de cette loi sont appliquées demain de la loi asile et migration, vous verrez que
les amendes pour les pays qui chargeront pas de migrants seront appliquées.
Vous verrez que les cours se chargeront d'annuler les mesures, etc.
Donc, peut-être.
Je pense qu'il faut un peu tout reprendre, et parce que c'est l'un des sujets les plus importants aujourd'hui pour nos sociétés, et ça mérite quand même, comment dire,
André Valigny,
qu'on s'y attelle vraiment.
Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on envoie un signal qui n'est pas clair à tous ces gens qui, évidemment, rêvent de venir en Europe. C'est l'Eldorado, ils ont tous un téléphone portable, ils voient. Bien sûr que si, on fait partie des pays les plus riches au monde, la France est un des pays les plus généreux. Comment on peut dire, on veut stopper les flux massifs d'immigration tout en disant, mais il y aura une répartition, et puis il y a un mécanisme de solidarité, et puis évidemment, le droit d'asile, et Dieu merci, il sera respecté. Le signal, il est ambigu.
Les choses sont compliquées, donc il faut faire les choses avec simplicité, tout en étant conscient que tout ça est très compliqué. Je vous trouve très sévère, aussi bien vous, Laurence, que vous, François-Olivier, vous êtes très sévère. C'est parce que rien ne marchait vraiment jusque-là, comme vous l'avez dit à juste titre, Laurence, que les députés européens, droite, gauche ensemble, pour la plupart, en laissant les extrêmes de côté, ont décidé de s'y attaquer à ce problème, avec ce pacte. On verra, moi je pense...
La gauche avait été contre, hein.
Toute la gauche ?
Pas toute la gauche.
Pas les sociodémocrates, pas tous les sociodémocrates. Moi, j'aurais voté pour, en tout cas. Je pense qu'il faut attendre. Je pense qu'il y a des choses positives qui peuvent marcher. Et puis, je veux ajouter à ça une autre dimension. Je pense, moi, je rêve d'un grand pacte euro-africain entre l'Union européenne, les pays d'Afrique qui émettent, les pays émetteurs d'immigration. Un grand pacte de développement. Un grand pacte où l'on régulerait les immigrés que l'on peut ou que l'on doit accepter parce qu'on est en crise démographique, notamment l'Italie et même la France. Un grand pacte basé sur la raison, avec du sang-froid, du bon sens, en dépassionnant le débat qui est devenu aujourd'hui un débat totalement hystérisé à cause des extrêmes. Je rêve de ce pacte entre l'Afrique et l'Europe pour réguler une immigration choisie de la part des Européens et pour aider les pays africains à se développer. Parce que tant que les gens mourront de faim dans les pays d'Afrique, ils chercheront par tous les moyens à venir en Europe.
Rien ne l'indiquera.
On est évidemment tout à fait d'accord là-dessus, parce que c'est évident. Sur les temps, c'est pas nouveau. On en parle et il y a, sur ce plan, rien n'est fait non plus. C'est-à-dire que l'Europe, elle est bien gentille, mais ça fait longtemps que tous ces gens-là sont là et ils n'y ont jamais pensé avant. C'est-à-dire que, oui, c'est un effet de discours. Moi, je trouve que c'est un vrai sujet parce qu'effectivement, l'Europe et l'Afrique ont des destins communs et doivent travailler ensemble et échanger en permanence. Mais qui le fait ? Qui le fait ? C'est-à-dire que, oui, alors là, de ce point de vue, Emmanuel Macron, il s'est bougé un peu, oui, il a fait des choses, et bravo, et je serai le premier à le dire. Je suis le premier à le dire. Mais là-dessus, c'est, vous regardez le reste de l'Europe, rien.
Et des pays qui ne veulent pas, la Pologne, la Hongrie,
L'Italie, Madame Meloni essaye de le faire.
Voyez. Je voudrais juste qu'on écoute Jordan Bardella avant le rappel des titres de Simon Guillain, justement sur ce pacte immigration et asile.
Merci Monsieur le Président, nous y sommes. Le pacte asile et migration est un moment de vérité pour l'ensemble des élus de ce Parlement et l'histoire nous regarde. L'immigration de masse constitue désormais partout en Europe une menace pour notre sécurité, pour notre identité et à l'évidence pour la stabilité de nos sociétés. La démographie fait l'histoire et la ruée vers l'Europe n'en est qu'au début du commencement. Devant ce défi existentiel, l'Union européenne choisit la voie de la faiblesse et celle de l'appel d'air. L'accueil ou la contribution financière des États, c'est ainsi que les représentants du président Macron résument ici ce pacte avec le ton déconnecté qui les caractérise. C'est en réalité la submersion ou la punition. Nos pays seront contraints d'accueillir des milliers de migrants dans leurs villes et villages, ou bien payer et payer cher pour en être épargnés. Bruxelles veut répartir, nous voulons faire repartir. Nous nous opposerons par conséquent à ce pacte de submersion. Avec ces appels d'air incessants, avec la brutalité par laquelle vous infligez aux peuples des vagues migratoires qu'ils ne souhaitent plus, vous piétinez la démocratie. Mesdames, Messieurs, les peuples d'Europe ne veulent être ni remplacés, ni submergés. Ils aspirent à la protection et au respect de leur volonté. Entendez leur appel.
Il sera l'invité à 19h30 de Christine Kelly, Jordan Bardella. André Valigny, au-delà de ce que dit Jordan Bardella, encore une fois, il y a une volonté d'accueillir à nouveau plus de migrants, c'est ça, ce pacte ?
il y a dans certains pays une nécessité d'accueillir des migrants pour combler le déficit démographique que connaît l'Allemagne, que connaît l'Italie. Madame Meloni elle-même, élue de la droite la plus dure, sans dire l'extrême droite italienne, avait été élue sur le thème « il n'y aura plus d'immigration en Italie si je suis élue ». Elle a avoué, entre guillemets, avoué il y a quelques semaines que l'Italie avait besoin de 400 000 immigrés supplémentaires. Donc elle demande des immigrés supplémentaires.
Immigration choisie, donc des nécessités économiques. Immigration de travail.
Le patronat en France, oui, bien sûr,
immigration
de travail. Le patronat, le MEDEF en France, demande à ce que l'immigration continue pour occuper les emplois qu'on n'arrive pas à faire occuper.
Oui, mais monsieur Valény, je suis désolé parce que c'est pas le sujet. Évidemment, on est toute personne normale est d'accord là-dessus. Évidemment, faut de l'immigration, il y a besoin d'immigration. Mais le problème, c'est les vagues incontrôlées. Le problème, c'est l'immigration contrôlée ou pas contrôlée. C'est le seul sujet.
Bien sûr, il faut
la contrôler. Mais comment se fait-il qu'on entend dire depuis 10 ans, ou j'irais 20 ans, il faut contrôler, il n'y a pas de contrôle. Donc, de ce point de vue, je pense que c'est des questions qu'il faut poser à l'Europe.
Oui.
Parce que si ça ne s'est pas contrôlé, c'est parce que l'Europe a décidé qu'elle s'en occupait. Et si l'Europe ne s'en occupe pas, c'est aux nations de revenir là-dessus et peut-être de revenir à ce que De Gaulle appelait à juste titre, l'Europe des nations.
Et c'est aussi aux nations de décider elles-mêmes si elles souhaitent plus ou moins d'immigration. Bien sur un sujet aussi essentiel que celui-là, compte tenu des sondages où une très très grande majorité des Français disent qu'ils ne veulent plus d'immigration, je crois qu'il est indispensable de leur demander leur avis, parce que l'immigration, naturellement, il y a des bénéfices à l'immigration, mais il y a aussi des inconvénients. Quand on est un pays comme la France qui a accueilli, qui a beaucoup accueilli, on voit désormais qu'il y a des problèmes d'assimilation, des problèmes d'intégration, avec des problème absolument majeur, on en parle tous les jours dans cette émission. Accueillir encore davantage des personnes qui viennent d'ailleurs, qui n'ont pas le même mode de vie que nous, etc., etc., je crois qu'il faut absolument consulter les Français.
Alors, Sabrina Medjeber, rapidement.
Tout à fait d'accord. Coût de l'immigration, rapport Jean-Paul Gourevitch dans le Figaro, 54 milliards d'euros. Coût structurel, coût régalien et coût humanitaire. 1,2 milliard d'AME, alors qu'au centre Pompidou, on a dû faire une quête pour obtenir un scanner. Alors, je suis d'accord, toutes les personnes qui arrivent sur le territoire ne sont pas des criminels. Mais le problème de l'immigration, c'est l'immigration criminogène, celle qui ne peut pas rentrer parce que nos politiques sont impuissants par rapport aux laissez-passer consulaires. C'est ça le vrai problème. 7% d'exécution des OQTF, 96% des personnes qui demandent le droit d'asile et qui en sont déboutées restent sur le territoire français. Rapport de la Cour des comptes 2022.
Allez, on reviendra sur ce pacte migration et asile qui a été adopté au Parlement européen. Mais d'abord, l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain.
Fin des recherches dans le hameau du Haut-Vernet. Le dispositif mis en place pour tenter de retrouver le corps du petit Émile a donc été levé cet après-midi. Des recherches qui ont permis de découvrir plusieurs éléments corporels ainsi que des vêtements de l'enfant. Les causes de son décès restent aujourd'hui inexpliquées. Un adolescent de 15 ans tué à coups de couteau à Romans-sur-Isère. Les faits se sont produits hier soir, peu après 22 heures, dans le quartier sensible de la Monnaie. La victime aurait cherché à s'interposer dans une altercation entre jeunes. Une personne a été interpellée et d'autres sont toujours activement recherchées. Et puis la maire d'Avallon et 5 suspects ont été présentés à un juge d'instruction aujourd'hui en vue d'une possible mise en examen. Il y a 3 jours maintenant, 70 kilos de cannabis avaient été découverts dans une maison qui lui appartient. Un communiqué du procureur de la République est attendu dans la soirée, Laurence.
Merci beaucoup Simon Guélin. On va parler maintenant d'Israël. Les présidents français Emmanuel Macron, égyptien Al-Sisi et jordanien le roi Abdallah II ont demandé un cessez-le-feu immédiat et une libération de tous les otages à Gaza. On en parle dans un instant avec notre invité Bernard-Henri Lévy. À tout de suite.
18h-19h sur CNews et Europe 1.
Punchline, Laurence Ferrari. Punchline, 18h-19h, Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1.
18h40, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Bonsoir Bernard-Henri Lévy.
Bonsoir.
Merci d'être notre invité ce soir. Solitude d'Israël, c'est votre magnifique livre aux éditions Grasset. Lundi, les présidents français Emmanuel Macron, le président égyptien Al-Sisi et le roi de Jordanie Abdallah II ont appelé à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et à une libération de tous les otages, tout en mettant en garde Israël contre les conséquences dangereuses d'une offensive à Rafah. Ma question est simple, est-ce qu'Israël est désormais seul ?
Ah oui, seul. Et je vais vous dire, je suis même... Je ne pensais pas, le titre de ce livre, « Solitude d'Israël », je n'imaginais pas qu'il se vérifierait autant. Et j'en suis épouvantablement triste. Israël a raison. Israël mène une guerre terrible, mais juste. Israël défend la cause des démocraties. Et dans cette bataille-là, Israël est de plus en plus seul. C'est vrai. Et c'est incompréhensible. C'est terrible et il faut se révolter contre cela.
Révolter contre les alliés qui font défaut, contre le président américain qui dit qu'il faut arrêter l'offensive, contre Stéphane Séjourné, notre ministre des Affaires étrangères, qui dit qu'il faut des sanctions contre Israël.
Moi, je suis révolté déjà quand les gens se trompent à ce point. Ce qu'il faut, c'est pas un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu, ça veut dire qu'à la minute où il entre en exercice, le Hamas triomphe, l'Iran pavoise, l'international islamiste est victorieuse et on entre dans une saison en enfer. Ce qu'il faut, c'est un arrêt de la guerre. Et un arrêt de la guerre, ça dépend de quoi ? D'un mot qu'il appartient au Hamas de prononcer, c'est la reddition. Le jour où le Hamas décide, accepte de rendre les armes, d'une manière ou d'une autre, de se rendre, de partir, peu importe, la guerre s'arrête. Et c'est ça qu'il faut obtenir. Je vois aujourd'hui, tout le monde fait pression sur Israël pour qu'il cesse le feu, alors qu'on devrait tous être en train de faire pression sur le Hamas pour qu'il se rendent.
Il y a des accords qui sont de trêve, qui sont en train d'être négociés. Ils achoppent sur un point notamment, c'est que le Hamas, Bernard-Henri Lévy, n'est pas capable de fournir les 40 otages vivants parmi les femmes, les enfants et les personnes âgées qu'il détient. C'est l'horreur absolue, c'est l'horreur dans l'horreur.
Attendez, il y a deux horreurs. Il y a d'abord ça, ils prétendent avoir perdu leurs traces. La deuxième horreur, c'est que s'ils disent cela, c'est qu'ils sont probablement morts. Et la troisième horreur, c'est les témoignages que nous commençons d'avoir de la part de certaines otages femmes revenues et qui nous révèlent comment elles ont été utilisées comme des objets sexuels dans des conditions épouvantables. Tout ça est atroce et que le Hamas ose encore négocier, voyager du Qatar à l'Égypte pour prétendument organiser des accords et d'une obscénité absolue.
Manuel Valls, qui était notre invité hier soir, dénonçait les mots de Stéphane Séjourné qui demande des sanctions contre Israël pour l'arrêt de la guerre. Est-ce que c'est supportable pour vous ?
Écoutez, on ne demande pas des sanctions contre un pays ami. On ne demande pas des sanctions contre Israël est notre allié. Israël est un ami historique de la France. La France doit être aux côtés d'Israël. Ceux qu'il faut sanctionner, ce sont ceux qui sponsorisent le Hamas. Il faut sanctionner aujourd'hui le Qatar qui abrite les chefs du Hamas. Il faudrait sanctionner la Turquie qui abrite elle aussi un autre chef du Hamas, M. Khaled Meshal. Il faut sanctionner peut-être l'Égypte, qui refuse d'ouvrir sa frontière, comme on le fait toujours dans ces cas-là, aux civils terrorisés par les combats, qui n'ont rien à voir avec cette guerre et qui voudraient être évacués. Voilà à qui il faudrait s'adresser, avec qui il faudrait hausser le ton, pas avec Israël. Il y a quelque chose là qui est... C'est le monde à l'envers. Si vraiment nous haussons le ton contre Israël, c'est que nous avons perdu notre boussole morale.
Le 7 octobre, c'était il y a un peu plus de 6 mois. Les pogroms, le grand pogrom qui s'est déroulé avec le Hamas comme unique responsable. Et il y a aujourd'hui ce bilan à Gaza aussi, qui ne cesse d'augmenter, avec des chiffres du ministère de la Santé du Hamas qui sont... soi-disant au-delà de 33 000 morts qui sont remis en cause, qui n'ont pas été vérifiés. Un certain nombre d'organisations remettent en cause ce bilan. Il aurait été surestimé par rapport aux femmes, aux enfants et sous-estimé par rapport aux combattants, en tout cas par rapport aux terroristes. C'est indéniable de toute façon que cette guerre est terrible, que la riposte d'Israël est terrible. Encore une fois, est-ce que c'est un piège dans lequel est tombé Israël ?
La riposte d'Israël, elle n'est pas terrible. Elle est au contraire proportionnée. Et je n'ai jamais vu, pour ma part, une armée prenant autant de précautions, mettant en place autant de procédures pour faire qu'il y ait le moins de victimes civiles possible. C'est comme ça. Et quand il y a des victimes civiles, Par exemple, l'affaire du convoi humanitaire de la semaine dernière, qui est une tragédie, diligentant une enquête aussi rapidement, en tirant les conclusions et démettant les officiers responsables de cette frappe. Je n'ai jamais vu une armée démocratique procéder avec une telle diligence et un tel soin. Donc, la riposte n'est pas disproportionnée. En revanche, la guerre est terrible, oui, bien sûr, mais comme toute guerre. Vous savez, moi, j'ai couvert et j'ai consacré un film à la bataille de Mossoul contre l'État islamique en Irak. Bien sûr que c'est terrible, et nous le savons tous. Encore une fois, il y a un responsable à ces victimes civiles. Il y a un responsable à cette tragédie, c'est le Hamas qui a déclenché le 7 octobre, qui a voulu la suite de la guerre et qui aujourd'hui, au lieu de protéger ses civils, les expose. Chaque civil mort aujourd'hui, c'est terrible à dire, mais c'est ainsi, fait partie de la stratégie d'un groupe terroriste et d'une armée de djihadistes dont le but est qu'il y ait le maximum de victimes civiles dans ses rangs. Là encore, c'est le monde à l'envers. En général, dans une guerre, vous faites en sorte d'avoir chez vous le moins de victimes possible, vous protégez les vôtres. Là, c'est le contraire. On les expose. Plus il y a de victimes, plus on a le sentiment d'avoir atteint son but stratégique.
Il y a les alliés militaires, financiers du Hamas, on en a parlé il y a quelques instants. Il y a aussi les alliés politiques qui se trouvent aussi dans notre pays. Je pense à l'extrême gauche. On va écouter Gabriel Attal qui a été interrogé cet après-midi à l'Assemblée nationale par la France insoumise. Écoutez sa réponse.
Avant de répondre à votre question, je veux rappeler, et je déplore et je regrette qu'il faille le faire à chaque fois en réponse aux questions de la France insoumise, que la situation dramatique que nous connaissons à Gaza fait suite à un attentat terroriste absolument ignoble, barbare, commis par le Hamas sur le sol israélien. À vous écouter dans vos interventions, ça serait une idée qui serait venue comme ça un matin de la part d'Israël d'intervenir à Gaza. Vous ne dites jamais un mot des victimes de l'attentat du Hamas. Vous ne parlez jamais de nos otages qui sont encore retenus aujourd'hui à Gaza. Les otages français sont au nombre de 3. Je regrette de devoir faire ce rappel à chaque fois que la France insoumise s'exprime sur ce sujet.
Bernard-Henri Lévy.
Oui, bah, ce discours est parfait,
il faut le rappeler sans cesse.
Il n'y a rien à ajouter.
Il faut le rappeler
sans cesse parce que ce qui est terrible, c'est qu'après, et c'est en effet ça qui a fait que j'ai voulu écrire ce livre, c'est qu'après un moment de sidération, au lendemain du 7 octobre, il y a eu une sorte de machine négationniste qui s'est mise en mouvement aussitôt, à coup de « oui mais », à coup de contexte, à coup d'effacement, et qui fait que ce dont vient de parler Gabriel Attal est devenu très vite un point de détail de l'histoire. Un point de détail. Si vous écoutez aujourd'hui...
Le mot tristement célèbre de Jean-Marie Le Pen.
Le mot de Jean-Marie Le Pen, oui, mais sauf qu'aujourd'hui, c'est plus seulement un mot tristement célèbre de Jean-Marie Le Pen, c'est la démarche intellectuelle des gens de la France insoumise. Ils disent « oui, naturellement ». Il y a eu le pogrom du 7 octobre, mais c'est un point de détail dans la longue histoire de l'occupation israélienne. Et c'est un point de détail dans la de nouveau longue histoire de la guerre que s'acharne à mener Israël pour la défense de son territoire et des libertés du monde démocratique. Donc c'est ce tour d'esprit-là est quelque chose, en effet, qui témoigne d'un grand abaissement de l'esprit chez une partie de notre représentation nationale, en l'occurrence les Insoumis.
6 mois de guerre, 6 mois depuis le 7 octobre, est-ce qu'il y a une lueur d'espoir dans tout ce chaos, Bernard-Henri Lévy? Une solution de paix qui se dessine ou pas du tout?
Une solution de paix, elle ne se dessine pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'il faut, ce pourquoi il faut prier chaque matin et chaque soir, c'est que tout cela s'arrête avec la défaite du fauteur de guerre, de celui qui l'entretient tous les jours, c'est-à-dire le Hamas. Après ça, si le peuple palestinien se réveille enfin de cette espèce de cauchemar éveillé dans lequel il a été plongé depuis 75 ans par des mauvais leaders, si enfin il admet la nécessité et la possibilité de vivre à côté d'un peuple juif avec minorité arabe qu'est Israël, là tout est possible. Mais il faut d'abord que cet envoûtement par le Hamas et par tout ce qui lui ressemble. Il n'y a pas que le Hamas, il y a toute une partie de l'autorité palestinienne aujourd'hui qui pense aussi comme le Hamas. Il faut que tout cela cesse. Il faut que ces hommes et les idées qu'ils portent soient défaites, soient vaincues. Vous savez, On dit on ne combat pas une idée avec des armes ou avec des bombes. Le national-socialisme en 1942, 43, 44, c'était aussi des idées. Et hélas, il a fallu des combats, il a fallu des bombes pour faire que le peuple allemand se réveille de cet envoûtement d'idées. L'espoir, il est là. Le jour où on en sera là, vous verrez, tout sera possible.
Bernard-Henri Lévy, la question des otages est lancinante. 6 mois qu'ils sont aux mains de ces terroristes, certains sont perdus, 40 d'entre eux, le Hamas dit ne sait même pas savoir où ils se trouvent. Pas un jour sans que vous y pensiez, à ces vides d'hommes, de femmes et d'enfants.
Écoutez, moi j'ai depuis le 9 ou le 10 octobre, j'ai ceci au poignet.
Un bracelet pour nos auditeurs.
Bracelet. Et il est dit sur ce bracelet, ils m'est ordonné de ne pas le retirer jusqu'à ce que le dernier otage israélien soit retourné à la maison. Donc en effet, j'y pense chaque matin lorsque je me réveille et je pense à ceux de ces otages qui restent. Et ça pour moi c'est très important. Ce livre-là, ce petit livre dont vous parliez, je l'ai écrit pour eux. Il leur est dédié nominalement, chacun par son nom. Je l'ai écrit parce que j'ai passé des semaines auprès de familles d'otages et que je leur ai fait le serment de raconter tout ça et d'empêcher en tout cas que ce soit recouvert par cette espèce de manteau d'oubli, d'indifférence et de négation qu'on voit s'abattre sur les leurs. Donc bien sûr que j'y pense tout le temps.
Quand vous voyez les affiches des otages qui sont lacérées, quand vous voyez les visages de cet enfant, cuir bibas, pareil, que l'on arrache, que l'on déchire, ça dit quoi de la violence de notre société?
Là encore, ça dit quelque chose de jamais vu. Moi, j'ai vu dans ma vie des gens dans la rue à qui une affiche ne plaît pas. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On en colle une à côté. À la rigueur, on en colle une par-dessus, ce qui est déjà moyen. Mais cette façon, et là encore, je le décris, cette façon de ces attentats au visage, cette façon de lacérer le visage de ces enfants méthodiquement, avec cette espèce de sauvagerie symbolique que l'on voit dans les rues de Paris, de New York et d'ailleurs, ça a quelque chose de totalement inédit. On n'avait jamais vu ça. On n'avait jamais vu le pogrom du 7 octobre, mais on n'a jamais vu non plus ces attentats symboliques dont vous parlez. Jamais, jamais.
Bernard-Henri Lévy, vous faites la promotion de ce livre, vous vous rendez dans plusieurs villes de France. Le climat d'intolérance qui règne autour de vous, autour de ceux qui portent cette parole-là, il y a son paroxysme aujourd'hui en France, je parle bien de la France. Comment vous le vivez, en tout cas?
Comment je le vis? Je peux vous dire une chose. Un, il m'en faut davantage pour m'intimider. Et en effet, je me suis trouvé il y a quelques jours dans plusieurs villes de France où certains imaginaient probablement qu'ils allaient m'interdire de parler. J'ai parlé comme prévu devant des assistances nombreuses, juives et non-juives, y compris par exemple à la grande synagogue de Marseille, des femmes et des hommes qui ont juste compris que ce qui se joue là en Israël, comme d'ailleurs en Ukraine ou comme demain à Taïwan, ce sont des batailles existentielles pour Israël, là pour le coup, mais d'une manière générale, pour tous ceux qui sont un peu, qui ont un peu le souci de la liberté. Et les gens viennent nombreux. Alors oui, bien sûr que vous l'avez lu dans les ici ou là. Bien sûr qu'il y a des climats de tension. Bien sûr qu'il y a une espèce de chantage à la manifestation. Mais encore une fois, pour m'empêcher de parler, il faut se lever de très bonne heure.
Bien sûr, mais il y a un climat de violence qui est prégnant dans notre pays, qui irrigue malheureusement toute la société. Et sur cette question-là, d'Israël, ça prend le visage de l'antisémitisme qui désormais explose en France.
Ça prend le visage de la haine des Juifs, oui. Je voyais encore tout à l'heure une image d'un amphithéâtre d'université, je crois que c'était à Créteil, où un étudiant juif a été sorti de force par la sécurité de l'établissement, sous les cris, les ourvaris, les huées de camarades qui lui hurlaient « sionistes dehors », etc.
On ne connaît pas exactement ce qui s'est passé auparavant.
Voilà. Bon, peut-être, on ne sait pas ce qui s'est passé auparavant, mais qu'il y ait un climat de haine, qu'il soit entretenu par certains. L'école normale supérieure, ça c'est un cas que je connais bien, c'est une école que j'ai fréquentée dans ma jeunesse. Quand on accueille Madame Judith Butler, qui dit que ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est pas un pogrom, c'est même pas un crime, mais que c'est un acte de résistance, comment voulez-vous qu'on ne mette pas le feu dans les âmes? Il y a aujourd'hui des femmes et des hommes qui sont des incendiaires des esprits en France, oui, en tenant des propos de ce genre. Alors, c'est vrai de la France insoumise, c'est vrai de, l'intellectuel dont je viens de parler, et c'est vrai d'autres. Et tout cela crée un climat, en effet, délétère et dont il faut absolument se libérer en tenant des paroles claires et justes et en rappelant quelques évidences, comme j'ai y compris les évidences historiques. Les gens ne savent rien. Vous parliez de la France insoumise. Mm-hmm. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est leur ignorance. Ils ne savent rien. Ils savent à peine, pour certaines ou pour certains, où est Gaza sur la carte. Ils ne savent pas très bien quelle était l'histoire de la région. Alors, voilà, donc il faut, je crois,
rappeler.
Pédagogie, rappel des choses, rappel de l'histoire. Et à ce compte-là, vous verrez, peut-être qu'on sortira de ce nouvel obscurantisme. Moi, en tout cas, c'est mon espoir. Je ne suis pas du tout abattu, encore moins désespéré. Je suis plein d'espoir.
Merci Bernard-Henri Lévy. Solitude d'Israël aux éditions Grasset. Merci beaucoup.
Merci.
D'être venu dans Punchline dans un instant. Hélène Zellani sur Europe 1, Christine Kelly sur CNews. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes. À demain.